Bonjour, bonjour, bienvenue dans Tu lis quoi, un podcast dans lequel je vous parle de mes dernières lectures. Je suis Clarisse et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vos dernières semaines se sont bien passées, que vous avez pu profiter un peu des premiers rayons du soleil et du printemps. Il faut tout emmagasiner, hein, tout ce qu'on peut. Ça fait toujours du bien. Écoutez, on va pouvoir commencer tranquillement. Dans cet épisode-là, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc, j'ai au menu un roman, deux bandes dessinées et un manga. Voilà. Je vous préviens, le ton va être un peu plus mitigé, disons, et un peu plus salé que les autres fois. Ça arrive, hein, dans l'aventure de la lecture, on ne tombe pas toujours sur des choses qui nous plaisent ou on est convaincu complètement. Et là, en l'occurrence, ça a été un cru un peu plus compliqué que d'habitude. Donc voilà, mais comme je vous disais, ça fait partie aussi de l'aventure et c'est toujours important de le partager, d'autant que c'est pas parce que ça ne me plaît pas à moi que ça ne vous plairait pas à vous, ou sinon ça fait toujours une possibilité d'en parler ensemble. Écoutez, on va commencer. Je vais débuter avec Willow Lake d'Alicia Garnier. C'est un roman et une romance du coup, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous ai déjà parlé de cette autrice, puisque c'est celle qui avait écrit Amber Falls, dont je vous avais parlé dans un épisode toute seule et dont on avait reparlé avec Cyriane pour notre épisode de fin d'année. Bisous Cyriane. Roman que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais globalement tout aimé, donc c'est pour ça que j'étais hyper impatiente de lire Willow Lake, qui, contrairement à ce que j'avais dit d'ailleurs, n'est pas du tout une suite d'Humber Falls. Ça reprend la logique du small town. Donc dans les romances, c'est comme son nom le décrit, un truc qui se passe dans une petite ville, le côté un peu tout le monde se connaît, le coin est réduit, on n'est pas dans une grande capitale ou une grande métropole, très typique des films de Noël par exemple, voilà. Mais du coup, voilà, pas du tout lié à Amber Falls, à part pour ce modèle-là. Et du coup, voilà, j'étais impatiente de découvrir cette nouvelle petite ville, donc qui s'appelle Willow Lake, ville dans laquelle vit Raphaël Colter, qui est, je pense, l'archétype du cow-boy. Il s'occupe pas de vaches, mais il s'occupe de chevaux. Hein, voilà, ils ont un ranch avec sa famille. Quand on le découvre, il a, si je me souviens bien, 26 ans. On comprend qu'il a été marqué par une relation et une rupture compliquée. Et on va du coup découvrir que cette relation était avec Fallon, une jeune New-Yorkaise qui avait débarqué 10 ans plus tôt à Willow Lake pour des vacances. Ses parents l'avaient traînée là. Les deux avaient 16 ans, ils se sont rencontrés et du coup, un coup de foudre a eu lieu à ce moment-là. Voilà, on l'apprend au fur et à mesure, je vous dévoile peu de choses, hein, parce que globalement, c'est assez rapidement dit. Par contre, on ne connaît pas les circonstances de cette rupture, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Raph est aussi marqué par tout ce qui s'est passé. Et on va garder le modèle un peu sur Amber Falls, c'est-à-dire qu'on va osciller entre le présent et le passé pour rejoindre au fur et à mesure le présent, comprendre ce que tout ça a impliqué pour l'un et l'autre des personnages et quelle sera la suite de tout ça. Voilà en gros pour mon résumé de Willow Lake et vient maintenant mon avis. Et je dois vous avouer que cette lecture a été une énorme déception. Alors, je mets quand même un peu en garde par rapport à ça, dans le sens où je ne pense pas que ce soit un mauvais livre, dans le sens où bon, c'est quand même bien écrit, c'est rythmé, Il y a quand même pas mal de choses qui se passent et je pense que ça peut être apprécié par beaucoup de monde. J'ai lu des choses bien pires et pour le coup qui parfois fonctionnent et qui me révoltent profondément. Là, pour le coup, j'ai pas de comment dire d'objection par rapport à ça. Je pense que ma déception est à la hauteur des attentes que j'avais parce que j'avais tellement aimé Amber Falls que j'avais vraiment hâte de lire, de voir les nouveaux personnages qu'elle avait créés, ce qu'elle voulait nous proposer comme histoire. Et en fait, ça ne m'a pas du tout accroché. J'ai pas trouvé, je me suis attachée à aucun des personnages. J'ai pas tellement aimé leur histoire. Moi, le côté vraiment coup de foudre et évidence et limite âme sœur et tout ça, c'est des choses qui me parlent pas du tout. Donc déjà, on partait avec un handicap, mais bon. Pourquoi pas ? Parce que moi, j'avais beaucoup aimé les personnages qu'elle avait construits dans Amber Falls. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas du tout accroché. À la limite, j'ai peut-être bien aimé Fallon. J'ai eu quand même pas mal de compassion pour elle sur certains aspects. Un peu moins pour Raph. Je l'ai quand même trouvé un peu ouin-ouin. Hein. Et puis... En plus de toute cette histoire, de leur histoire, il y a une histoire un peu plus grande qui se construit autour, et notamment qui est liée à la famille de Fallon. Donc Fallon qui est une fille de gros riche new-yorkais, hein, globalement. Visiblement, son père n'est pas, un saint. Ça pue quand même les fonctionnements mafieux. Et du coup, il y a tout un mystère un peu autour de ça aussi. Ce qui rajoute du lore, certes, mais ce qui rajoute de la complexité, ce qui rajoute des longueurs, je l'ai trouvé très long, effectivement. Je pense qu'il y aurait pu avoir au moins 100 pages de moins. Je trouvais que l'autrice quand même tirait beaucoup sur la corde pour faire des faux suspens et tout ça qui était vraiment pas utile. Toute cette histoire en plus fait que ça ralentit encore plus l'histoire. J'ai beaucoup pensé à Gossip Girl aussi en lisant pour plusieurs raisons. Déjà pour un peu ce côté gosse de riche, pour aussi son écriture des enfants et des adolescents. Pour moi qui n'était pas du tout crédible, c'est-à-dire que comme on oscille entre leur quand ils sont rencontrés vers 16 ans et donc leur âge adulte au moment présent entre guillemets, on a quand même beaucoup de choses qui se passent quand ils sont adolescents et en fait ce ne sont pas des adolescents, ce sont des adolescents qui parlent comme des adultes, d'où le fait que je pensais à Gossip Girl où globalement on était sur des séries où des ados de 16 ans étaient joués par des gens de 25-30 ans et en fait tout est comme ça. Il y a une enfant aussi à un moment qui est plus présente dans le récit. Aucun enfant de 10 ans ne parle comme ça. Enfin, voilà. Ça, pour le coup, ça m'a posé un très gros problème en termes de crédibilité de personnages et de leur histoire et tout ça. Que ce soit d'enjeux, de préoccupations, de comment on se formule les choses. Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas du tout crédible là-dessus. Donc, ce qui m'a encore plus décalé du récit. Et puis... Oui, je suis pas rentrée dedans, il y avait trop de longueur, il y avait trop d'éléments, elle a voulu mettre trop de choses, je pense. Et pour aboutir en plus à une fin et une conclusion qui m'a pas du tout convaincue non plus. J'ai pas compris les choix des personnages et comment ils en sont arrivés là. Il y a même un chapitre bonus qui fait que je pense que même l'autrice elle-même ne savait pas n'a pas voulu choisir et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on fait un choix, elle n'a pas voulu le faire. Je trouve même que globalement toute l'histoire est assez injuste avec Fallon justement, peut-être pour ça que je me suis un peu plus attachée à elle qu'au reste du groupe en gros. Je n'aime pas du tout le déroulé de tout ça parce que tout son problème est qu'elle ne décide pas de sa vie puisque ses parents décident de tout, qu'on comprend qu'elle n'a pas le choix et qu'elle en plus elle est terrifiée hein, globalement. Et en fait, jusqu'au bout, même si elle fait des choses pour essayer de se dépatouiller de tout ça, même les personnes bienveillantes, c'est pas de la méchanceté qui transforme ça, mais au final, Elle ne décide même pas d'elle-même de ce qu'elle veut et de... Voilà, on ne l'écoute pas. Il y a beaucoup d'enjeux de communication aussi qui paraissent tirer en longueur, mais là en plus, on ne lui demande pas son avis et elle subit les décisions des autres en permanence. Et ça, je trouve que c'est assez injuste pour le personnage féminin et ça ne va même pas dans le bon sens par rapport à tout ce qu'on essaye de nous dire de tout le long du roman. Donc voilà, j'ai pas compris ce qu'elle voulait nous dire. J'ose même peut-être une take, une supposition qui est purement de la psychologie de comptoir, mais dans les remerciements, l'autrice dit qu'elle a eu beaucoup de mal à écrire ce roman, que ça a été très douloureux. Et elle remercie, je crois, son éditrice qui l'a aidée, qu'elle a eu, voilà, qu'elle a cru qu'elle allait abandonner plusieurs fois. Et je pense, en fait, en tout cas, moi je l'interprète comme ça, je pense que ça se ressent. Il y a trop de pistes mises dedans, elle a voulu faire trop de choses, elle a voulu faire. Voilà, et du coup, ça donne quelque chose qui pour moi est pas du tout satisfaisant et qui a été très décevant tout le long de ma lecture. Donc voilà, j'en suis très triste hein, pour le coup, c'est vraiment pas ce que j'attendais et j'étais vraiment pas partie là-dessus en commençant Willow Lake, mais malheureusement, c'est la conclusion que j'en tire. Donc bon, si vous sentez d'y aller. Voilà, ce sera pas une romance problématique, un roman horrible ou tout ça, mais je vous conseille plutôt de, si vous l'avez pas lu, de lire Humber Falls plutôt que Willow Lake. C'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attachant que cette aventure-là. Voilà ce que j'avais à dire pour Willow Lake d'Alicia Garnier. Je vais continuer avec une première BD que je vous évoquais. C'est La langue des vipères de Juliette Brocal. Dans cette BD, alors, ça va aller avec les choses, mais pour vous dire, je vais avoir du mal à vous la résumer et c'est tout le problème que j'ai eu avec cette BD que, pour information, je n'ai pas terminé pour l'instant. On va dire que la langue des vipères va être pour le moment un faux départ. J'avais déjà envie d'en parler maintenant parce que ça soulève parfois aussi un autre sujet quand on se lance dans des lectures, mais je pense que je la retenterai, d'autant plus que Morgane, Bise Morgane, l'a lu et m'a dit que c'était très bien, donc fallait que je lui redonne sa chance. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu du mal du coup à la continuer. Alors, dans La langue des vipères, on est dans un univers. Alors, quand même fantastique, puisqu'il y a vous allez le voir, il y a une notion un peu de magie, et notamment de magie avec la langue, mais qui est, je pense, très inspirée de la Renaissance italienne, en tout cas, des notions un peu que j'ai. Et on va suivre Iodis, qui est une jeune femme qui est la fille illégitime d'un haut dignitaire, je crois, et qui est du coup envoyée dans une abbaye qui forme les nobles à l'usage de la langue. Donc la langue avec une majuscule, qui a un langage visiblement qui provoque des sorts, de la magie et qui permet notamment d'avoir des visions. Voilà, donc Iodis s'est formée à ça. Elle a l'air d'avoir un talent assez inné, tout en n'étant pas toujours très disciplinée. Donc un usage qui n'est pas forcément très... comment dire, conforme en tout cas à ce qu'on essaye de leur enseigner. Elle est quand même potentiellement en difficulté parce que si elle n'est pas, elle n'arrive pas à avoir un doctorat, elle sera obligée de devenir nonne, chose qu'elle n'a pas du tout envie. Et en même temps, est lié à ça, visiblement, un complot qui se trame. Elle se fixe sur une autre étudiante qui a l'air de tramer quelque chose. En tout cas, elle ne lui fait pas du tout confiance. Et des événements vont arriver au fur et à mesure et montrent qu'il y a un peu un enjeu autour justement de cette langue qui est préservée par les membres de l'abbaye et qui veulent la garder coûte que coûte en savoir un peu secret. Opposé à d'autres qui voudraient en tirer plus de pouvoir, de commerce également, enfin voilà, et faire en sorte du coup que la langue soit enseignée à plus de monde ou accessible en tout cas à plus de monde. Voilà ce que j'ai réussi à vous résumer jusque-là. Et en fait, ça a été tout mon problème pour cette BD, même si, alors, première chose quand même que je dois souligner, parce que c'est ça quand même qui m'avait attiré dans cette BD et qui s'est confirmé. Le dessin et les illustrations sont incroyables. Vraiment, tout est sublime. Chaque page est à décortiquer, à observer, les détails, les couleurs. Enfin, tout est incroyable. Vraiment, c'est un boulot d'illustration qui est fou. Enfin, voilà, je vais manquer d'adjectifs à un moment donné, mais c'est vraiment magnifique. Je vous dis, vous pouvez vous poser sur une page et tout observer, observer tous les détails et tout ça. C'est vraiment très, très beau. Donc là-dessus, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, regardez-la, quoi, parce qu'elle est très belle. Mais après, moi, tout mon souci a été de rentrer dans le monde dans lequel tout ça se passait. Et j'ai l'impression d'avoir été un peu jetée dans le bain glacé, quoi. Et j'ai pas réussi à me dépatouiller des règles et de comprendre exactement quels étaient les enjeux. C'est-à-dire que j'ai pas complètement les enjeux politiques, sociaux, etc. Et déjà, on me parle de complot, mais du coup, j'arrive pas à me sentir concernée et à comprendre les conséquences que ça pourrait avoir parce que j'ai pas encore bien compris dans quel monde on évolue. Et du coup, j'ai jamais réussi à accrocher, à rentrer dedans, parce que tout le long, enfin, de la lecture, parce que comme je vous disais, je n'ai pas terminé, je pense tout simplement que je me suis sentie très bête. Voilà, de ne pas comprendre dans quel monde j'évolue, de ne pas comprendre exactement ce qu'on me dit aussi, parce que forcément, on fait référence à des choses qui ont une logique dans ce monde-là, mais bah moi, j'arrivais pas à saisir complètement ce dont on me parlait. Enfin voilà, c'était un peu compliqué là-dessus, et du coup, pour moi, c'est quand même un souci de construction d'univers et potentiellement de l'objet BD aussi. C'est que s'il y a des règles complexes à comprendre, peut-être qu'il faudrait nous les dire au début. D'après ce que m'a dit Morgane, sans me spoiler, visiblement, il y a toute une annexe à la fin de la BD qui permet de comprendre un peu plus tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait à la fin? Pourquoi on ne me le dit pas avant? Enfin voilà, je l'ai trouvé du coup difficile d'accès. Ce que je trouve un peu dommage, et qui pour moi, oui, bon, pour moi, c'est une erreur un peu de construction ou de l'histoire, ou de juste nous donner les règles de comprendre dans quoi on évolue. Alors, après, c'est peut-être une volonté aussi, hein, de pas se formaliser de ça et de se dire, bah voilà, vous comprendrez ce que vous aurez à comprendre, ou peut-être que tout ça n'est pas si important pour vraiment s'immerger, mais pour moi, ça l'était en tout cas. De pas avoir mes repères et de pas toujours comprendre de quoi on parle, bah du coup, je me suis pas du tout sentie concernée par l'histoire qu'on essayait de me raconter. Et bah du coup, ça m'a bloquée, j'ai arrêté pour l'instant de le lire. Je retenterai quand même le coup, je pense. C'est pas un abandon total, mais là pour l'instant, ça m'a un peu freiné et un peu pas fâché, mais vexé peut-être. C'est jamais très agréable de se sentir bête, hein, quand on lit, mais c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce que je trouve que parfois c'est un souci, surtout quand on essaye de se plonger dans des mondes fantastiques ou des mondes qui restent quand même différents de nous, de bien instiller les règles, ou alors, en l'occurrence là, je pense qu'il y a des choses qui rappellent des éléments historiques auxquels on pourrait se raccrocher, mais il suffit que tu ne connaisses pas ou pas bien la période historique dont on te parle pour bah, que tu sois quand même perdu et que tu comprennes pas bien non plus où te situer. Donc voilà, donc c'est pour ça, je me dis que parfois il y a des œuvres qui souffrent de ça aussi, alors que l'histoire serait super, mais si t'arrives pas à t'orienter correctement et à te placer dans tout ça, et bah, c'est difficile de rentrer dedans et de continuer ta lecture. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur La langue des vipères de Juliette Brocal. Passons maintenant à la seconde BD dont je voulais parler, et c'était Lyndon d'Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo. J'espère que je prononce bien. Pardon si ce n'est pas le cas, mais je crois. Lyndon, on est pour le coup plutôt à la fin du 19e siècle et on se situe en Écosse. En tout cas, c'est là où on va rencontrer notre personnage principal, Lyndon, du coup, qui est un jeune Britannique, de ce qu'on comprend très rapidement. Il a grandi, il a toujours grandi à Londres, mais il a atterri en Écosse pour être instituteur. Il enseigne à des enfants du coin, enfants de, notamment de, d'agriculteurs, etc., de la région où il s'est installé. Et on comprend vite que Lyndon est assez tourmenté comme garçon. Il fait beaucoup de cauchemars, il a du mal à se... comment dire, à s'implanter dans la réalité. Il a l'air d'avoir toujours des choses qui le tourmentent, un peu de mal peut-être aussi à se lier aux autres, enfin voilà. Mais il essaie d'entretenir cette routine, de se lancer un peu des défis comme ça pour essayer de passer ses angoisses et de lutter contre tous ces troubles-là. Il va faire la rencontre de différents habitants de ce coin-là, qui ont l'air de quand même bien l'accueillir. Un jeune homme, notamment, va lui taper dans l'œil, mais la disparition d'un de ses élèves va déclencher un peu un remue-ménage et surtout va réveiller beaucoup de mauvais souvenirs qui ont l'air de poursuivre Lyndon depuis longtemps. Et donc, on va évoluer dans tout ce monde-là, dans cette quête et de lui-même et d'essayer de retrouver cet enfant. Voilà ce que je voudrais vous dire. J'essaye de réfléchir pour ne pas trop vous spoiler de choses non plus, mais voilà comment je pourrais vous résumer l'histoire. Pour le coup, Lyndon, j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai adoré le dessin, pareil, tout est très beau. Toute l'ambiance de la BD m'a un peu rappelé une autre que j'adore qui s'appelle Minuit passé, dans le sens où on oscille beaucoup, vu qu'on est à la fois dans ses tourments et dans ses cauchemars, et en même temps se mêle un peu des histoires un peu mythologiques mythologiques celtes et écossaises. Il y a plein de choses comme ça qui fait qu'on est un peu souvent dans le rêve, dans l'onirique, un peu dans le... pas dans des histoires de fantômes, mais vous voyez un peu ce truc un peu latent de réalité par réalité, qui est toujours très intéressante, que moi j'aime beaucoup en tout cas. On cerne vite les personnages, tout le monde est assez attachant, je trouve. On est content de les suivre. Moi j'ai très vite été happée par un peu tout le suspense de tout ça. J'ai bien aimé aussi le développement de Lyndon. C'est toujours intéressant de voir comment on peut parler comme ça des troubles anxieux et d'être hanté en fait par un souvenir et par une culpabilité et par toutes ces choses-là qui peuvent ne jamais se résoudre, en tout cas si on essaye de ne pas les affronter ou si on n'y arrive pas aussi, parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'était à la fois un peu et intriguant, angoissant et avec beaucoup de douceur en même temps. Des dessins, encore une fois, très beaux. J'ai bien aimé aussi toutes ces couleurs et toute cette palette de d'îles écossaises un peu sombres dans les bleus, les verts et tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Lyndon a un petit look à la Sherlock Holmes aussi et de Benedict Cumberbatch que j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une histoire qui est pas des plus compliquées pour le coup, hein. J'avais changé l'ambiance par rapport à la langue des vipères, mais qui se lit très bien, tout est fluide, on est très vite happé par l'histoire. Et du coup, j'ai été très contente de découvrir Lyndon. J'ai très envie de lire, je n'avais pas lu la première BD des deux autrices qui s'appelle Ribis, qui, de ce qu'on m'a dit, est très très bien. Donc il va falloir que je la lise aussi. J'ai commencé par la deuxième, mais du coup, j'ai très envie de lire la première et hâte de voir ce qu'elle proposait dans cette première œuvre-là. Voilà. Je vais passer à la dernière, au dernier titre. Qui est du coup Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori. Ton visage au clair de lune, donc c'est un manga, hein, comme je vous le disais au début, je termine avec un manga, que j'avais commencé à lire maintenant, il y a quelque temps. Mika Yamamori, c'est pareil, une autrice que j'aime beaucoup, en tout cas dans ce que j'avais lu jusque-là. Elle a un titre qui s'appelle Daytime Shooting Star. Que j'avais adoré, qui est encore dans ma bibliothèque. Un autre titre, c'est Tsubaki Lonely Planet, je crois, qui n'est pas traduit en France pour l'instant, dont j'avais que j'avais lu en scan et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, quand j'avais vu que il sortait un nouveau titre d'elle en France, j'avais sauté dessus. Ton visage au clair de lune, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique en termes de shoujo. On a une jeune fille qui s'appelle Yoi. Yoi ou Yoi d'ailleurs, je n'ai jamais trop su comment il fallait le dire, mais je dirais Yoi. Qui est une jeune lycéenne qui est beaucoup appréciée de ses camarades, notamment parce qu'elle a ce qu'on appelle une aura de prince, c'est quelque chose que quand vous lisez des shoujo, vous retrouvez souvent. C'est un peu voilà le chevalier servant du lycée, sauf qu'effectivement c'est une jeune fille, mais ça n'empêche pas ses camarades d'apprécier énormément cette aura qu'il y a autour d'elle. Qu'elle endosse sans avoir vraiment l'impression, sans donner vraiment l'impression de l'apprécier complètement. Mais elle va faire la connaissance donc d'un autre élève qui est Ishimura, qui la remarque, qui s'intéresse à elle et qui va essayer voilà, de faire en sorte de la séduire et qu'ils sortent ensemble et leur relation va se développer comme ça. Vous voyez, l'histoire est très simple, effectivement. Je dois avouer que j'appréciais bien quand j'ai lu les premiers tomes. C'est une histoire que j'aimais bien. J'aime beaucoup les dessins et le trait de Mika Yamamori en plus. Donc, j'étais hyper contente de tous ces dessins-là. Sauf que là, là j'ai lu le tome 9. Il y avait eu un bon écart quand même entre la publication du dernier tome et celui-ci, ce qui fait que ça faisait un moment que je n'avais pas lu Ton visage au clair de lune et je suis retombée dans le tome 9. Et malheureusement, ce temps d'attente n'a pas fait du bien à mon appréciation de ce manga-là. Je suis très déçue de la tournure de l'histoire. C'est globalement, je pense, assez creux. On tourne un peu en rond sur plein de choses. Tout est d'une lenteur abyssale, mais ça, à la limite, c'est, je peux avoir l'habitude avec les shoujo, mais parce que justement, il y a peu d'enjeux et peu de questionnements, bah, tout est tiré en longueur. Tout le sujet qu'il aurait pu avoir autour justement des codes de genre et le fait que Yoi soit perçu un peu comme ce prince, donc un peu un loup avec ce look un peu androgyne et ses attributs masculins en gros qu'on lui donnait, était je trouve, un bon sujet. Le fait que, bon, voilà, un garçon s'intéresse à elle pouvait l'éveiller à d'autres choses aussi. Mais en fin de compte, je trouve qu'on tombe vite dans le consensuel, voire même le conservateur, puisque elle ne veut pas, bon, de cette identité de prince, pourquoi pas, puisque ça reste une projection des autres, donc on n'est pas obligé de répondre à tous, à toujours ce que les gens attendent de nous, mais vient très vite dans le vocabulaire le côté « je suis une vraie fille », le côté « je suis plus féminine », le fait de s'habiller comme ci, comme ça, d'être une jeune fille parce qu'on tombe amoureuse et donc on devient rougissante, discrète et intimidée, enfin voilà. C'est plein de choses comme ça, où en fin de compte, je trouve qu'on repart 10 pas en arrière. Le personnage masculin, oui, il est... non, pas très intéressant en vrai. Enfin voilà, je me suis vraiment replongée dans l'histoire et j'ai été très déçue de ce que je redécouvrais. Comme en plus, on est quand même au 9e tome, il ne se passe pas grand-chose. Ça m'a donné l'impression d'un soap-opéra. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder, par exemple, Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour. Amour, gloire et beauté, moi, j'y ai eu droit pendant des périodes de chômage, parce que ça passe en fin de matinée. Et en fait, c'est typiquement le genre de série où, en fait, vous les quittez, vous... regardez plus pendant 6 mois, voire même 1 an, vous revenez, vous n'êtes pas perdu. Hein. Vraiment, il n'y a pas de complexité, et vous retrouvez très bien les mêmes problèmes, puisque tout se répète. Bah là, j'ai eu un peu ce sentiment-là aussi. On est dans un soap-opéra sans fin. Les personnages secondaires sont pas beaucoup plus intéressants. Voilà, ça va être un stop pour moi, je pense... ton visage au clair de lune, j'ai pas tellement envie de donner plus de temps à ce manga-là, d'autant qu'on finit avec un soi-disant rebondissement qui, je sais très bien, va être un faux truc, ou c'est pareil. C'est vraiment typiquement le genre de mécanisme qui m'agace énormément et qui est souvent repris dans les shoujo, mais qui peut s'appliquer aussi à des séries télé, parce que c'est le côté sériel, je pense, qui crée ça, c'est que pour redonner un peu de rebondi à l'histoire ou machin, on crée des faux suspens, on crée des fausses ruptures ou des faux départs ou des choses comme ça, tout ça pour donner un peu plus d'élan, étirer encore plus l'histoire, et ça vraiment, c'est un procédé qui m'agace énormément, très souvent ça me fait arrêter. Pour le coup, parce que j'aime pas qu'on se serve de ça pour rien. Je trouve ça vraiment pas intéressant, alors qu'il y aurait sûrement plein d'autres choses à faire. Mais là, pour le coup, c'est complètement fictif et... comment dire ? Fictif, oui, parce qu'on parle d'une fiction, mais complètement instrumentalisé. Et donc, je trouve que c'est pas, ça sert pas du tout l'histoire. Donc voilà, ça c'est le truc qui a mis le dernier clou au cercueil, je pense. Donc pour moi, ça va s'arrêter là, pour ton visage au clair de lune. Et puis comme ça, ça me donnera, écoutez, des sous pour d'autres titres. Il y en a tellement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc je vous avais prévenu, hein, c'était assez salé comme épisode. J'ai peu aimé de choses par rapport à ce que j'ai lu, mais j'espère que pour les prochains j'aurai d'autres choses et que je serai plus positive dans les sujets que j'aurai à aborder. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis si jamais vous avez lu certains des titres que vous avez aimé, pas aimé. Enfin voilà, on pourra en discuter. J'apprécie toujours quand même ce n'est pas du tout les titres dont je vous ai parlé, mais que vous me parlez de vos lectures en DM et tout ça, machin, c'est toujours très chouette. Donc n'hésitez pas à continuer, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait en plus ensuite noter d'autres titres, et comme ça, ça allonge ma liste de livres que je voudrais lire, ou de BD, ou de manga, peu importe. Donc voilà, au cas où je n'ai plus rien à lire un jour, on sait jamais, hein. Est-ce que ça arrivera un jour, je ne suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous. Bye bye.